sujet de l'heure. Voici Robert Pilote au 106.9. Mauricie.
Oui, puis merci d'écouter le 106.9 Mauricie. Puis si quelqu'un vous demande quel poste vous écoutez, vous direz le 106.9 Mauricie. À 13h24, dans 2-3 secondes, Jérémy Filosa. Mais ça, c'est une espèce de bombe encore dans le domaine politique, parce que Maxime Bernier ne laisse personne indifférent. Il nous annonce qu'il quitte le Parti conservateur. Il te les varlope.
D'un bord à l'autre.
Et puis, on te tue un extrait de ce qu'il a dit?
Oui, absolument. Et je te disais plutôt qu'il se proclamait en quelque sorte Donald Trump du Canada. Vous allez comprendre très bien pourquoi là, dans l'extrait que je vous fais entendre.
Toutefois, la position de mon parti sur plusieurs questions m'a convaincu que sous le leadership actuel, il a pratiquement abandonné ses principes conservateurs fondamentaux. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment un parti censé défendre le libre marché appuie un petit cartel qui fait augmenter artificiellement le prix du lait, du poulet et des œufs pour des millions de consommateurs canadiens. Mais surtout, la gestion de l'offre est devenue l'un des principaux obstacles à un accord avec les États-Unis sur l'ALENA. Tout comme dans d'autres sociétés occidentales aux prises avec ce problème, un grand nombre de Canadiens et certainement la grande majorité des conservateurs craignent que nous allions dans la mauvaise direction. Il n'est pas politiquement correct de soulever de telles questions. Au lieu de mener le débat et de repousser les accusations injustes, Andrew Scheer a choisi d'éviter la controverse. Lui et plusieurs de mes collègues m'ont désavoué. Ils ont tellement peur des critiques de la gauche et des médias qu'ils préfèrent laisser tomber des millions de partisans conservateurs à travers le pays qui voudraient que nous nous attaquions à ce problème. Comme nous pouvons nous attendre à ce que ce parti adopte des réformes conservatrices au pouvoir, je pense qu'on rêve. S'il ne peut même pas formuler une position claire et la défendre avant qu'il ne soit élu, comment ce parti pourra proposer des réformes conservatrices? Je suis maintenant convaincu que ce que nous obtiendrons si Andrew Scheer devient premier ministre ne sera qu'une version plus modérée du désastreux gouvernement libéral.
Bon, alors ça, c'est un extrait. Puis en anglais, il a dit que les conservateurs étaient un parti de corrompus. On va y revenir un petit peu plus tard dans l'émission. C'est le moment d'aller rejoindre Jérémy.
Midi plus. Les sujets de l'heure. Voici Jérémy Filosa. Au 106.9, Mauricie.
Allô, Jérémy.
Salut.
Ça brasse en tabarnouche.
Ça brasse.
Il y a une campagne électorale. Je sais pas, si on avait une chose à lui demander dans le programme pour le sport au Québec, là,
ouais.
Est-ce qu'on pourrait bien lui demander c'est un stade olympique rénové, un nouveau stade de baseball à Montréal?
Ben, un petit peu de tout ça, là. C'est tout ce qu'on a laissé, malheureusement, pourrir en décrépitude dans les dernières années. Puis ça, c'est dans toutes les infrastructures sportives, là, je te dirais à droite puis à gauche, à partir, bien sûr, de l'emblème du sport au Québec, le stade olympique. Il n'y a pas un stade en Amérique du Nord de cette épopée-là qui n'a pas été soit grandement rénové ou tout simplement démoli et remplacé. Nous autres, on traîne de la patte. Toutes les autres provinces du Canada, regarde ça, là, le BC Place à Vancouver, flambant neuf. Tu regardes à Winnipeg, ils ont un nouveau stade de football, flambant neuf, puis c'est Major League, comme on dit. Même chose en Saskatchewan, même chose à Hamilton. Non, on traîne de la patte là, à ce niveau-là. On le sait, on a besoin d'un nouveau stade de baseball pour l'équipe potentiellement qui va venir, si elle vient, bien sûr. Le stade olympique, soit faut le remettre à jour, il faut prendre une décision, puis vivons avec. Puis j'aimerais vraiment qu'on se prononce là-dessus, parce que j'ai trouvé que ceux qui ont été là dans le passé, ça a toujours été une patate chaude, mais prendre une décision, puis on va vivre avec. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, là? Parce que là, ça... C'est comme ton voisin, là, son toit qui coule, puis là, il attend 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais dans 10 ans, ta maison, là, il va falloir l'acheter à terre parce que ça ne tiendra plus debout. T'sais. C'est complètement irresponsable. Puis quand on se promène dans nos infrastructures, écoute, j'ai joué au hockey cet été dans un aréna ici, pas loin, dans le quartier Saint-Michel. Tabarouette de tabarouette. Tu rentres dans l'aréna, tu as l'impression d'être dans un pays du tiers-monde. C'est épouvantable. Ah oui. L'aréna, l'intérieur est rouillé, rongé par l'intérieur. Ça sent mauvais, l'humidité, puis... Ah, misère! Et les parcs de baseball, on commencera même pas.
Oui, c'est ça. Les infrastructures sportives, c'est important de les tenir à niveau, de les maintenir à niveau. niveau parce que ça invite les jeunes à bouger, puis à pratiquer le sport, puis ça fait une génération qui n'est pas pognée sur le maudit téléphone, puis les tablettes, puis la TV, puis à fumer de la dope. Non, mais tu as bien raison là-dessus. Ça devrait être un enjeu électoral.
Exact. Puis ça devrait pas coûter les yeux de la tête. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'en occuper. Tu sais, je vais prendre l'exemple du Rogers Center à Toronto. Le toit, là, il marche très bien, il fonctionne bien, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'il y a eu un trou l'hiver dernier, vous vous en souvenez, là, un gros morceau de glace qui est tombé sur le toit, mais finalement, on l'a réparé. Mais tout ça pour dire que à Toronto, là, rentrez dans le Rogers Center, là, puis vous allez vous rendre compte que c'est ultra moderne, c'est mis à jour, mais ça leur a pas coûté un demi-milliard. C'est parce qu'à chaque fois, là, on regarde le toit, là, ils vont le remplacer. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans quelques années, il ne marchera plus, il va avoir des problèmes. Fait que prenons le temps tout de suite de le remplacer avant qu'il soit trop tard. Puis ça risque de nous coûter pas mal moins cher que s'il faut, à prime abord, réparer les dommages et ensuite remplacer, comme malheureusement là, on a fait ici. Là.
Jérémy, un extrait maintenant, quelques secondes, de ce documentaire sur Joe Murphy.
Est-ce qu'on l'écoute?
Where are you staying in Kenora?
I've been living homeless in shelters across Ontario in different areas for many years now. And so it hasn't been easy.
Would it be okay just if we walked maybe off on this busy street?
Tu peux venir avec nous autres. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Là? C'est lui qui parle, Joe Murphy?
Oui, effectivement, Joe Murphy qui jase avec le journaliste, justement, de TSN, qui l'a rejoint, qui l'a rencontré à Kenora, en Ontario, ouais. Alors qu'il est devenu un sans-abri.
Il paraît que c'est bien triste, oui. Jérémy, cette histoire-là.
Vraiment, écoutez, là. Puis Joe Murphy, là, c'était un joueur de talent. C'était un marqueur. C'était un premier choix au repêchage des Red Wings de Détroit en 1986. C'était pas un bagarreur, parce qu'on a eu beaucoup d'histoires dans les dernières années des hommes forts de la Ligue nationale qui vivent avec les séquelles, ceux qui survivent, parce qu'il y en a qui s'enlèvent la vie, malheureusement. Mais on parle d'un joueur de talent. Et dans le documentaire, on pointe un incident en particulier où Sean Burr lui applique une mise en échec sévère. Il est victime d'une commotion cérébrale. Sa tête donne contre la bande. Et c'est à partir de ce moment-là que tout aurait commencé à déraper, selon ce que les gens dans le documentaire nous disent. Son ex-conjointe dit « Moi, quand j'étais marié avec lui, il n'y avait pas d'écart de conduite. C'était un homme normal. » C'est après ce coup-là qu'il a reçu que ça a commencé à déraper, les médicaments, la drogue, l'alcool et tout cela. Ben là, on sait l'histoire, il y a eu séparation avec son ex-conjointe, n'a plus vraiment de contact avec elle ou sa fille, habite dans la rue. Et moi, ce que j'ai trouvé le plus triste là-dedans, c'est quand il dit « Quand j'étais le plus en détresse, j'ai communiqué avec la Ligue nationale de hockey qui est supposée avoir un programme pour les anciens qui souffrent de cela ». Puis il dit, on m'a fermé la ligne au nez, on n'a pas voulu m'aider. Bon. Et non seulement ça, mais les gens de TSN ont tenté de communiquer avec la Ligue nationale, l'Association des joueurs. Il n'y a personne qui a voulu commenter ou même donner son
c'était,
opinion.
Jérémy, c'était la même affaire au football, là, tu le sais. Hein?
Ben oui.
Il y a eu une fermeture longtemps avant de reconnaître tout le tort qu'a fait les commotions cérébrales à ceux qui ont évolué dans ces ligues majeures. Ça a été long, mais je pense que là, il y a de plus en plus d'ouverture là-dessus. Et le cas de Joe Murphy va probablement sensibiliser bien du monde.
Ben écoute, moi, j'aurais aimé ça en avoir encore plus. 15 minutes, c'est quasiment pas assez suffisant. J'aurais aimé qu'il nous explique encore plus en détail ce qu'il a vécu pour qu'on puisse comprendre. Parce que c'est pas normal qu'un être humain qui a toute sa tête, à un moment donné, perde complètement la carte comme ça. Vous avez vu les images, il y a clairement des problèmes de motricité, ce monsieur. Il n'a plus le contrôle, par exemple, de ses bras qui partent un peu à droite et à gauche sans le vouloir. Je suis certain qu'il y a du dommage causé par la consommation de la drogue là-dedans. Mais il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé à Joe Murphy si on veut que ça se répète pas, ce type d'histoire-là. C'est extrêmement triste. Moi, je me souviens de ce joueur-là qui était une beauté à voir sur la patinoire de hockey et de voir que ça a pu lui arriver à lui, ça veut dire que ça pourrait arriver. Parce que souvent, ils disent « Ouais, mais les joueurs au hockey, c'est pas si pire que ça. T'sais, si t'es un joueur de finesse, tu finiras pas avec la cervelle endommagée. » Ben, regarde, lui, c'en est un exemple parfait. Là.
Serge me disait que quand les fils se sont touchés puis qu'il s'est mis à avoir des problèmes... Oui, il a perdu quoi à Las Vegas?
Il aurait perdu 950 000 $ là, l'espace de quelques jours.
C'est un gars qui a gagné 15 millions, oui. C'est oui. ça? 15 millions en carrière.
Et c'est ça, lui, il dit entre 15 et 20 millions. Puis c'est la question que je me suis posée, c'est comment il a fait pour flamber tout cet argent-là aussi rapidement. Mais ça, c'est sûr que si tu as le vice du jeu en plus, ah ben là, tu sais, ton chien est mort parce que la drogue, il va falloir que tu en fumes pas mal là, pour te rendre à 15 puis à 20 millions. Ouais. Mais quand tu es dans un casino, il n'y a pas un chef de table qui va te refuser une mise de 10 000, de 50 000, de 100 000. Si tu veux miser, crois-moi, ils vont trouver le moyen de te faire miser. Moi, j'ai déjà travaillé dans un casino pendant 5 ans comme croupier dans une autre vie. Croyez-moi, si tu as de l'argent, ils vont te faire une place.
Merci beaucoup, Jérémy. On se retrouve demain.
Pas de problème. Salut.
Bye-bye, Jérémy Filosa, 13h34. Je vous rappelle, ça se bouscule. Ça se bouscule. D'entrée de jeu, aujourd'hui, on a lancé le Québec en campagne électorale. Philippe Couillard a dissous l'Assemblée nationale. Et il s'en vient maintenant vers la Mauricie. Il va donner des entrevues, ça et là. Mais surtout, ne manquez pas l'entrevue qu'il va donner à Catherine Godreau demain matin dans l'émission du Réveil autour de 7h. Ça va être bien, bien intéressant. Mais celui qui est venu nous surprendre. Maxime Bernier, on se doutait qu'il se passait des affaires. Il a fait quelques tweets qui critiquaient le gouvernement conservateur. Le chef conservateur. Là, je plais un autre lapsus, encore une fois. Peut-être que ce sera le prochain gouvernement après les niaiseries de M. Trudeau, mais on verra bien. Là. Mais bon, très critique à l'endroit d'Andrew Scheer. Et là, aujourd'hui, il nous dit que c'est un parti de pas fin, de corrompu, de pas bon. Je quitte, je claque la porte et je forme un nouveau parti.